Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Ce soir, pas d'invité en direct, une émission un petit peu spéciale, car je suis allée à la rencontre donc, des étudiants en lutte contre la loi travail, le collectif dont les Tourangeaux contre la loi travail. Je suis allée à la rencontre de Kevin et Alex, deux étudiants de la faculté des Tanneurs, qui nous expliquent un petit peu pourquoi ils sont contre cette loi, quels sont les caractères dangereux de cette loi, et puis ils reviennent... Voilà, en gros sur le mouvement, donc je vous laisse écouter ça, et puis nous on revient tout de suite après. Et alors je me trouve actuellement avec Kevin et Alex, tous deux étudiants donc, à la faculté des Tanneurs, si je ne me trompe pas, et donc bah, salut les gars.
Salut, salut.
Bah, déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire dans quelle filière vous êtes, et voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau étudiant?
Donc je m'appelle Kevin Durand, je suis étudiant en Master 1 de Sociologie.
Je m'appelle Alex, je suis étudiant en L1 de Sociologie et également en L2 d'Histoire.
D'accord. Et donc, vous faites tous les deux partie du mouvement donc, La Jeunesse contre la Loi du Travail, c'est ça?
C'est ça.
Pour présenter... Donc, voilà, c'est une loi qui suscite beaucoup de mouvements en ce moment. Est-ce qu'on pourrait expliquer, du coup, à nos auditeurs en quoi cette loi est dangereuse et pourquoi vous luttez contre aujourd'hui?
Oui, du coup, alors, pour moi, cette loi, donc, il y a beaucoup de choses dedans. C'est une loi un peu fourre-tout, mais je trouve qu'il y a un point qui la résume pour l'essentiel, c'est l'idée de ce que les politiciens appellent l'inversion des normes. L'inversion des normes, c'est le fait qu'avant, dans l'entreprise, on ne pouvait avoir que des plus par rapport au code du travail. Aujourd'hui, on pourra détricoter le code du travail dans l'entreprise et on nous vend l'idée que ce serait de la démocratie dans l'entreprise. Il faut bien considérer que ça ne peut pas être de la démocratie, puisque le contrat de travail, dans le contrat de travail, c'est un rapport de subordination. Et le rapport de subordination fait que ça ne peut pas être démocratique, puisque évidemment, s'il n'y a pas d'égalité, c'est pas la démocratie. Là, vous aurez votre patron qui va venir vous voir en vous disant « Bon, bah, les gars, on a des problèmes économiques, ou je licencie 500 personnes, ou vous renoncez à tel ou tel de vos avantages sociaux, de vos acquis sociaux. » Et les gens, ils se diront « Voilà, ou 500 d'entre nous vont se retrouver au chômage, ou on renonce. » Donc, ils vont renoncer, évidemment. Et donc, c'est un moyen de pression supplémentaire pour le patronat. Et donc voilà, à terme, c'est détricoter le code du travail, c'est donc revenir aux conditions de travail du 19e siècle, puisque le code du travail, c'est depuis 1910.
Et concrètement, quand tu dis détricoter, comment est-ce que c'est décrit dans cette loi? Quelles sont les mesures qui sont prises, justement? Est-ce que concrètement,
des mesures, il y en a plusieurs, je sais pas, je vais peut-être te laisser faire le listing, t'as plus le...
Bon, les mesures, bah, en fait, faut faire attention surtout à pas s'attacher trop aux mesures en elles-mêmes, parce que le gouvernement peut revenir sur des mesures. Ce qui est dangereux, c'est l'esprit de la loi, comme le disait Kevin, c'est effectivement le fait de laisser les salariés nus face au patron. Il faut savoir que le code du travail, comme il a été créé à la base pour... parce que les conflits entre le patron et le salarié ne peuvent pas être jugés en droit commun. Parce que le droit commun, c'est entre deux individus égaux. Le droit du travail, c'est entre un subordonné, le salarié, et un donneur d'ordre, le patron. Bon, là, actuellement, on dit, mais on va mettre de la démocratie dans l'entreprise, ça va être super. Vous allez discuter d'égal à égal avec votre patron de vos temps de travail, de vos rémunérations parfois, de vos congés, etc. Mais en fait, non, c'est le petit truc qui fait précédent et qui va casser tout le code du travail. Parce que... comment dire? Parce que du coup, ça veut dire qu'on dit maintenant les relations de travail, c'est une relation d'égal à égal. Ce qui, enfin, c'est absurde. N'importe qui ayant déjà travaillé dans une entreprise se rend vite compte qu'il n'est pas sur un pied d'égalité avec le patron, quoi. Voilà. Bon, ensuite, sur les mesures, alors il y en a plein. Le gouvernement est revenu sur quelques mesures choquantes que la droite réclame. C'est-à-dire, par exemple, les apprentis qui peuvent travailler 40 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va des gosses de 15 ans pouvoir travailler 40 heures par semaine. C'est délirant. Pour en lister quelques-unes, donc il y a la possibilité de travailler jusqu'à 48 heures par semaine, voire jusqu'à 60 heures dans certains cas, 12 heures de travail par jour, enfin ça fait des décennies que le temps de travail est limité à 10 heures par jour, ce qui est déjà considérable. Les heures supplémentaires qui pourront être payées en temps de repos, la rémunération des heures supplémentaires qui va considérablement baisser, la possibilité de négocier le salaire par accord d'entreprise. Donc c'est ce que je disais, c'est que maintenant il y a un certain nombre de choses qui vont se négocier non plus au niveau de la loi qui protège tous les salariés mais au niveau de l'entreprise. Voilà, donc il y a pas mal de mesures comme ça, la facilité de licenciement des salariés. Mmh. Une des mesures les plus choquantes qui avait fait l'unanimité syndicale contre elle et qui a été retirée, enfin... à moitié retiré, c'était le plafonnement des indemnités prud'homales. En cas de licenciement abusif, un salarié va au prud'homme. Et les prud'hommes, c'est un truc un peu particulier, c'est composé d'un représentant des salariés et du patronat. Ils doivent se mettre d'accord pour la sanction. Et là, d'habitude, on a des peines planchers en droit commun. On ne peut pas descendre en dessous. Et là, on avait plafonné le montant des peines. Donc, c'est quand même exceptionnel. C'est une justice à deux vitesses. Pour les pauvres, on met des peines planchers. Pour les autres, on dit on ne peut pas condamner à plus de temps de. Voilà.
Donc, pour les licenciements illégaux. Donc, ça veut dire on disait, vous allez être hors la loi, mais vous ne pourrez pas être sanctionné au-delà de ça. C'est déjà aberrant.
Voilà, et donc du coup le gouvernement a moitié revenu dessus, il a dit que du coup ça serait pas contraignant, que c'était à titre purement indicatif, donc on voit pas trop comment un truc indicatif peut être dans une loi, enfin, c'est un peu particulier quoi. Mais ça c'est une des mesures qui a le plus fait, parler d'elle.
Après ce qu'on voit avec un des points sur lequel les syndicats sont encore en discussion avec le gouvernement, c'est la facilité des licenciements économiques, où clairement c'est une précarisation du travail, et il faut voir aussi les conséquences que ça a dans la vie réelle, c'est-à-dire que là déjà aujourd'hui les banques font de moins en moins de prêts aux gens qui commencent à travailler et tout, mais quand vous avez un CDI vous avez quand même un peu plus de chances d'avoir un prêt, d'avoir... Et là, quand vous allez avoir, vous aurez des CDI, mais quand on aura des CDI comme ça, où on sait qu'on peut, si l'entreprise est en difficulté, on peut être licencié n'importe quand. Du coup, je vois pas comment les banques vont nous prêter. Voilà, les banques vont nous prêter de l'argent. Comment, du coup, on va réussir à avoir un logement. Comment, même que ce soit pour acheter, donc on demande un prêt à une banque, ou que ce soit pour louer un logement. Et quand on va arriver, le propriétaire dans certaines villes demande déjà des garanties incroyables. Là, les gens vont arriver, vont dire ouais, je suis en CDI et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton CDI? Tu peux te faire virer dans le mois prochain. Et donc, du coup, comment les gens vont réussir à trouver un logement, par exemple? Il y a plein d'applications concrètes auxquelles je pense le gouvernement n'a pas pensé, ou alors ils sont trop pressés de faire du cadeau au patronat pour y avoir eu l'occasion de penser aux conséquences que ça pouvait avoir. Mais clairement, ça peut avoir d'énormes répercussions sur la vie des gens qui sont dans la galère.
Il faut rappeler déjà que l'âge du CDI actuellement en France, il s'approche gentiment de 30 ans. Ça veut dire que jusqu'à à peu près 30 ans, pour la majorité des gens, effectivement, on navigue de CDD en stage, en petit boulot, en temps partiel, etc. En fait, on n'a aucune sécurité. On ne peut pas faire de crédit pour avoir une baraque. On ne peut pas s'installer. On ne peut pas avoir une vie de famille. On n'a aucune lisibilité à long terme. Donc voilà. Et donc, c'est déjà un moment difficile. Et là, du coup, ça veut dire que même quand on aura enfin un CDI, au final, on sera en même situation, puisque du jour au lendemain, on pourrait être licencié, même illégalement, avec des indemnités ridicules. C'est totalement délirant.
Précaire à vie.
La précarité à vie, oui. Et c'est une loi, en fait, qui se situe dans toute la lignée de ce qui avait été fait avant par les gouvernements successifs. Donc, Hollande qui a fait la fameuse flexi-sécurité, qui a fait la loi Macron dans le même genre, où il s'agit de flexibiliser, de libérer le marché de l'emploi. Enfin, bref.
Comment c'est justifié auprès de l'État? Quel est le besoin, la demande, du coup, par rapport à cette loi? D'où elle sort?
C'est assez simple. L'idée, c'est que le patronat n'embaucherait pas, surtout le grand patronat, parce qu'ils auraient peur d'avoir des difficultés économiques après et de ne pas pouvoir licencier les gens. Sauf que le chômage, ça n'arrive pas comme ça. Le chômage, c'est une volonté. J'avais lu l'année dernière un historien, notamment Alain Deverpe, qui est génial là-dessus, qui explique que le chômage a toujours servi au patronat pour mettre la pression, pour faire un rapport de force, pour finalement obtenir des mesures qui vont dans son sens, qui leur permettent de gagner plus d'argent. Et là, c'est clairement ça qui joue. Plus le chômage augmente, plus les gens se disent mais il faut effectivement donner plus de droits à l'entreprise, plus de droits, qu'il y ait moins de sécurité de l'emploi, plus de flexibilité et tout. Et donc là, ils sont en train d'obtenir ça, en ayant fait monter artificiellement le taux du chômage sous prétexte de la crise économique. Ils se servent de ça pour mettre la pression et pour détricoter les droits que les salariés ont obtenus après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a un exemple très concret de ce que représente le chômage pour le patronat. Je pense qu'on a tous plus ou moins fait, étudiants, des entretiens d'embauche pour des petits jobs, style chrono drive, des choses comme ça. Ces gens se permettent, lors des entretiens d'embauche, exigent une soumission à l'entreprise délirante. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas refuser. Parce que si nous on refuse, c'est pas grave, nous, tant pis, on va continuer à galérer. Et eux, par contre, si on refuse, c'est pas grave, il y en a 200 qui attendent derrière. Quoi. Voilà, ça montre très concrètement comment, en fait, le chômage, ça sert au patronat. Donc une volonté, il y a clairement une volonté de garder le chômage. Et de toute façon, maintenant on avance vers l'intelligence artificielle et le numérique va révolutionner le monde du travail. Il va détruire des emplois. Maintenant, des emplois qui étaient occupés avant, par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est dans le supermarché. Avant, là, il y avait une caissière, maintenant une caisse automatique. Bon. Donc, on va avoir de moins en moins d'emplois. Le temps de travail, le travail se raréfie en France. La solution logique, c'est de partager le travail entre tout le monde. Et donc, par exemple, d'instaurer au hasard, je sais qu'il y a des syndicats qui revendiquent les 32 heures, par exemple. Bon, ce n'est pas une mesure que nous, on porte encore à Tours, mais c'est proposé par certains. Et là, au contraire, on va augmenter la durée de travail. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des gens qui vont être dans le travail et qui vont travailler comme des bêtes, 60 heures par semaine, pardon, mais c'est germinal, quoi. C'est du délire, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. On est rincé quand on rentre du taf, on se couche, et voilà, enfin, c'est... Il n'y a pas de vie en dehors du travail, donc il y a des gens qui vont se retrouver comme ça dans le travail avec des cadences infernales et d'autres qui vont être en dehors du travail et qui vont sombrer dans une précarité délirante parce que le gouvernement, à côté de cette loi travail, il va aussi casser les indemnités chômage. Voilà. Et il y a toujours la stigmatisation des chômeurs comme les feignants, les assistés, qu'il faudrait mettre un grand coup de pied au cul dans le droit chemin de l'emploi et des charmants SMIC. Voilà.
Et vous alors, du coup donc vous réfutez complètement la loi, vous demandez donc le retrait, mais est-ce qu'il y a des propositions? Vous faites des propositions ou vous demandez juste...
Oui, on a des pistes. Alors déjà, les pistes, c'est, comme je disais, c'est la réduction du temps de travail. On n'est pas fixé sur la durée, mais ça serait en gros une piste, la réduction du temps de travail pour que le travail au moins soit équitablement partagé, même si le travail, ça reste quelque chose d'aliénant, ça reste quelque chose qui n'est pas toujours agréable pour beaucoup. Donc au moins, voilà, on travaille moins, mais que plus de gens aient accès à l'emploi, parce que l'emploi, ça reste important en France. Voilà, il y a ça, il y a ce qu'on appelle le partage des richesses. Bon, c'est dire, par exemple, il y a eu sous Hollande le CICE et le CIR, de Crédit Impôt Compétitivité Emploi, le Crédit Impôt Recherche, qui, tous deux cumulés, représentent 40 milliards d'euros par an, qui sont en fait offerts au patronat. Voilà, en échange des fameux 1 million d'emplois que Pierre Gattaz avait promis, et qui, une belle promesse qu'il a remise très rapidement, on s'en doutait. Donc on se dit, bah, cet argent, ces 40 milliards, on va peut-être pas les donner au patronat, on pourrait en faire autre chose, quoi. Voilà, ça pourrait servir à financer le fameux trou de la sécu sociale. Enfin bref, qu'on arrête de taper toujours sur les mêmes et qu'on regarde un petit peu du côté des fameuses exonérations de charges, des choses comme ça accordées au patronat.
Mais après, on a eu le débat hier de savoir si on devait porter ou pas des revendications. Moi, personnellement, je m'exprime plutôt contre parce que j'estime que c'est l'État qui nous dit quelle est la forme légitime que doit prendre notre action politique, ce qui est problématique parce que voilà, on peut pas se faire imposer la forme légitime de l'action politique. C'est à nous de dire comment on doit faire de la politique. Et puis, après, c'est des sujets sur lesquels on est à même de se diviser. Or, dans la lutte, il vaut mieux qu'on se rassemble et qu'on se rassemble notamment sur la critique du système et sur tous les trucs qui nous conviennent pas. Après, à titre individuel, on porte tous plein de solutions. Moi, par exemple, mais vraiment à titre purement individuel, pas au nom du mouvement, je suis pour le développement des SCOP, par exemple, SCOP qui permet aux travailleurs d'avoir la maîtrise du fonctionnement de son entreprise, ce qui est quand même un bon modèle. Puis après, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'étais aussi étudiant en économie. Je sais que, voilà, aujourd'hui, c'est le travail qui supporte toute la charge des cotisations sociales. Il suffit de faire passer ça sur le capital, il suffit de faire passer ça sur les profits. On a des entreprises aujourd'hui qui font énormément de profits en France. Il faut savoir que ces entreprises, elles sont incitées à la délocalisation parce que dans d'autres pays, elles sont moins imposées et que plus elles vont avoir des filiales dans d'autres pays où le taux d'imposition est moins fort, moins elles vont payer d'impôts en France. Donc en fait, elles sont incitées à la délocalisation. Dans les trucs absolument aberrants, dans la loi Macron, il y a le fait que le paiement des patrons en stock option, ça va être c'est moitié moins taxé aujourd'hui. Donc là, on a entendu parler de patron de PSA qui a touché 5,2 millions de salaires. Sur les 5,2 millions de salaires, il faut savoir qu'il y en a 2 millions qui sont en stock option. Avant, il aurait été taxé à hauteur de 40%. Depuis la loi Macron, il n'est plus taxé qu'à hauteur de 20%. Et voilà, aujourd'hui, on a fait plein de cadeaux aux plus riches et on fait plein de misère aux plus pauvres. Et il est temps d'inverser la machine. Et il faut savoir que, par exemple, dans ce qui joue beaucoup sur le taux de chômage, moi, aujourd'hui, je travaille sur la fonction publique territoriale, sur mon mémoire. J'ai tous les jours les chiffres de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale des dernières années. J'ai les courbes devant les yeux. Je sais que pour certaines, ça a déjà commencé à diminuer. Pour certaines, c'est en train de stagner, alors que la population, elle, augmente. Si on avait continué à maintenir le niveau de services publics qu'on avait à l'époque et le nombre de fonctionnaires qu'on avait à l'époque, aujourd'hui, il y aurait à peu près 3 millions de chômeurs de moins. Pas 3 millions de chômeurs, mais il y aurait beaucoup moins de chômeurs. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une politique totalement libérale de faire de moins en moins d'État. Et donc pour ça, on nous dit qu'on a des problèmes de dépenses, qu'on dépense trop et tout. Il faut lire certains rapports économiques qui expliquent que non, on a des entreprises qui font de l'évasion fiscale, qu'on a des riches qui ne payent pas leurs impôts, des choses comme ça. Et donc à cause de ça, effectivement, on a un problème de recettes, ce qui fait que bah, on a de moins en moins de services publics, par exemple, et donc de plus en plus de chômeurs. Et le problème, c'est qu'on nous leurre avec des choses comme ça. Et les solutions sont toujours les mêmes, c'est d'aller vers toujours plus de libéralisme. Moi, je m'intéresse à la politique un peu depuis que je suis gamin, et je comprends pas qu'au bout de 40 ans, on prêche les mêmes solutions, on n'ait pas compris que c'est pas les solutions, c'est le problème en soi, quoi. Ça fait 40 ans qu'on dit, mais laissons s'enrichir les patronats, les entreprises, et peut-être à un moment, ça va ramener de la croissance, vous aurez moins de chômage, et vous allez finir par en bénéficier. Ça fait 40 ans qu'on dit la même chose, ça fait 40 ans que ça marche pas. À un moment, quand est-ce qu'on finit par se dire, non, mais c'est pas la solution, c'est le problème en soi. Voilà. Et nous, on porte ce message, et on est, je pense, des milliers en France à porter ce message, et on espère qu'à un moment on va être entendu, mais on a des gouvernements assez autistes parfois.
Faut préciser que ça marche très bien, ça, le libéralisme, ça marche très bien, mais pas pour les salariés. Ça marche très bien pour le patronat. Voilà, c'est, je pense, moi, à titre purement individuel, que patron et salarié n'ont pas vraiment les mêmes intérêts, et qu'effectivement, ce qui marche très bien pour les uns, voilà, Pierre Gattaz se frotte les mains devant la loi travail, quoi, il en est absolument ravi. Bon, par contre, il a un peu les quelques rares concessions faites par le gouvernement qui sont totalement insuffisantes, puisqu'on demande le retrait total de la loi, le chagrine profondément, mais je veux dire, l'esprit de la loi lui convient parfaitement. Voilà, bon, donc après, effectivement, on s'écharpe gentiment sur quelles sont nos revendications après, est-ce qu'on va plus loin que le retrait de la loi travail ou pas, enfin quelles revendications concrètes on porte, ça on n'est pas encore fixé là-dessus. Par contre, ce qui est très très clair, c'est qu'effectivement on ne dénonce pas que la loi travail, on dénonce toute la logique qui est à l'œuvre derrière cette loi travail, la logique du libéralisme, la logique de la précarité, qui est à l'œuvre depuis des années. Enfin, la précarisation, c'était quelque chose qui était déjà dénoncé à l'époque du CPE il y a 10 ans jour pour jour, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais voilà, et faut continuer à se battre contre ça, et on cible vraiment ça, parce qu'il n'y a pas que la loi travail, il y a autre chose avant. Sous le gouvernement Hollande, il y a eu l'ANI, il y a eu la loi Macron, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu des choses comme ça, qui en fait déjà cassent nos acquis, vont dans la même logique de toujours moins de protection pour les salariés et toujours plus pour le patronat, quoi. C'est toujours dans un sens, c'est pas supportable. Et puis c'était la même chose sous Sarkozy, avant sous Chirac, etc.
Il faut bien préciser, en plus l'impression de trahison qu'on a, justement, je pense d'avoir vécu ces logiques libérales pendant le dernier mandat, d'avoir voté pour changer d'option politique et de se retrouver avec aujourd'hui Manuel Valls qui nous dit qu'il est social-libéral. Alors quand on fait un tout petit peu d'histoire des idées politiques, et qu'on a fait un tout petit peu de sciences politiques dans sa vie, on voit bien que c'est un paradoxe. Enfin, c'est un oxymore même comme terme. C'est, voilà, le socialisme et le libéralisme sont deux choses totalement opposées. Aujourd'hui, Manuel Valls, il n'est pas socialiste, il est totalement libéral. Ça se voit des petites phrases qu'il prononce de temps en temps, et il aime bien répéter « mais on n'a pas d'autre solution », ce qui est en fait une traduction d'une phrase de Margaret Thatcher. Et il a plusieurs phrases comme ça où là notamment il a reproché aux sociologues la politique de l'excuse, mais c'est aussi une attaque contre la sociologie en général, parce que nous on voit qu'il y a des déterminismes sociaux. On dit voilà, il y a des gens par rapport au milieu dans lequel ils ont vécu, ils ont vécu dans certaines conditions, ce qui les a conditionnés à certaines réactions. Et le problème, c'est que les libéraux préfèrent penser que tout le monde naît sur un pied d'égalité et que ce sont les choix qui font que on arrive à telle ou telle position sociale, et donc que certains seraient plus méritants que d'autres, et ce qui ferait que la hiérarchie sociale serait totalement naturelle. Or, voilà, dès qu'on fait un tout petit peu de sociologie et qu'on s'intéresse un tout petit peu à ces questions, il devient assez évident qu'on part pas tous du même milieu, on parle pas tous de la même façon, et qu'on est tous très différents, on a tous vécu notre socialisation différemment, et qu'on peut pas prétendre qu'on est à égalité, et donc du coup la hiérarchie sociale serait basée sur l'idée de mérite, quoi.
Juste dire une petite chose pour terminer pour moi, c'est qu'il faut faire très attention avec un argument qui revient beaucoup en ce moment, dans une période où les lycéens et les étudiants sont très mobilisés contre cette loi travail, à un point qu'on n'avait pas vu depuis le CPE. C'est le « mais de toute façon, vous n'êtes pas concerné, vous n'y connaissez rien, la loi travail, c'est pour les salariés, c'est pas pour vous ». Il faut rappeler que 70% des étudiants se salarient pour payer leurs études. Voilà, donc le travail, on a quand même une petite idée, et quand même, les étudiants ne sont pas autistes. On a des pères, on a des mères, on a des sœurs, des frères, des cousins, des gens qui travaillent autour de nous.
Vous êtes les premières personnes à arriver sur le marché du travail.
Et on sera les premiers à arriver sur le marché du travail.
C'est notre avenir qui se joue.
Voilà, et de toute façon, on n'est pas destiné à rester étudiant toute notre vie. On va sortir un jour de la fac pour aller sur le marché du travail. Et donc du coup, on est concerné. Il faut absolument tordre le cou à ce mythe que de toute façon, vous n'êtes pas concerné. C'est pas, on n'est pas concerné. Ou alors, ça, on y a eu droit déjà en assemblée générale. C'est le fameux. Mais de toute façon, moi, je fais des études pour m'élever, pour avoir des diplômes et pour échapper à la loi de travail. Ça, faut également tordre le cou à ça parce que bah, la précarité à Bac+8, ça existe. Des Bac+8, des doctorants qui font la plonge au McDo, ça existe. Qui galèrent les contractuels dans, à l'université, les chargés de TD payés au lance-pierre quand ils sont payés, ça existe. Voilà, donc il faut faire très attention à ça, on est tous concernés. C'est vraiment hyper important de se mobiliser contre. Parce que cette loi, il faut voir aussi que c'est la première d'une longue série. Si elle passe, elle va ouvrir plein de brèches dans le code du travail, dans nos droits. Et bah, ces brèches, dans un an, dans deux ans, que ce soit le gouvernement Hollande ou celui qui lui succédera, qui sera sans doute pas meilleur, et bah, les autres gouvernements vont s'engouffrer dedans et vont repartir de plus belle à l'offensive. C'est maintenant qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Donc non seulement pour qu'on arrête de nous casser nos droits, mais en plus pour repartir à l'offensive, pour en gagner de nouveau.
Donc finalement, la loi travail, elle arrive là, mais c'est le... Il y avait déjà... beaucoup de revendications avant, c'est la goutte d'eau qui vient un petit peu faire déborder le vase oui. Et dire voilà, on essaie encore.
Oui, parce que cette loi était particulièrement scandaleuse dans ses modalités. Enfin, pour que même la CFDT au début commence à parler vaguement de descendre dans la rue, c'est quand même ça allait beaucoup trop loin, quoi. Bon, on avait, enfin, dedans il y a toujours d'ailleurs la fin des 35 heures et la fin du CDI, qui sont quand même, je veux dire, deux acquis sociaux majeurs pour tous les salariés. Et voilà, et on nous dit on va en finir avec ça. Donc évidemment, ça c'était le truc en trop, le truc inimaginable. En plus, de la part d'un gouvernement qui s'était fait lire en expliquant qui était l'ennemi de la finance. Bon, je pense que là aujourd'hui la finance elle est un peu rassurée, quand bien même, enfin, elle a jamais eu peur, mais bon. Et voilà, donc c'est vraiment le petit truc en trop, mais il y a eu avant toute la logique. Il faut pas non plus faut faire attention, faut pas non plus s'arrêter à juste dénoncer cette loi de travail. Il faut aller au-delà, dénoncer toute la logique. Et pour une fois qu'on est dans la rue, faut demander des améliorations de nos acquis, quoi. Pour une fois qu'on y est, faut repartir de l'avant.
C'est le moment de tout revoir.
Pour le côté goutte d'eau, je dirais oui et non. En fait, il y a oui dans le sens où effectivement, on a eu beaucoup de lois qui allaient dans le même sens, dans le sens libéral, et qui donnaient beaucoup plus de poids au patronat. Et donc, effectivement, il y a cet effet cumulatif. Mais non, dans le sens, c'est pas qu'une goutte d'eau. Cette loi, elle est vraiment... C'est un gros truc, comme il le disait. C'est quand même la fin d'un modèle, la fin du CDI, la fin... comme je le disais au tout début, c'est l'inversion des normes, c'est le fait de rediscuter dans l'entreprise des choses, donc de détricoter le code du travail, puisque tout pourra de nouveau se négocier dans l'entreprise, donc on pourra revenir sur tous les acquis du code du travail. Et les acquis du code du travail, ça démarre en 1910, c'est en 1910 qu'on fait, enfin c'est même avant que la réflexion commence, c'est en 1910 que c'est acté, mais c'est dès le début du XXe siècle qu'on s'est dit, il faut que les travailleurs soient protégés. Et donc là, c'est nous faire revenir aux conditions à long terme. Hein. C'est pas avoir, ça, pas, la loi ne va pas passer, on va revenir directement au 19e siècle. Mais à long terme, c'est le retour au 19e siècle. Il faut rappeler un peu qu'est-ce que c'était au 19e siècle. Quoi. Au 19e siècle, il y avait le rapport Villermé au milieu du siècle. Il explique que les gens travaillent 13 heures, dont 11 effectives. Qu'à l'époque, il y a un travail des enfants effrayant, et le travail des enfants produit énormément d'handicapés parce qu'il y a beaucoup trop de... Enfin, d'ailleurs, l'une des conséquences du rapport Villermé, c'est d'arrêter le travail des enfants parce qu'il y a de plus en plus d'handicapés, de gens qui sont incapables de travailler à l'âge adulte parce que, étant petits, ils ont travaillé dans des manufactures textiles et ils sont fait happer une main par la machine ou des choses comme ça. Et voilà, on est en train de revenir à un rapport de force beaucoup trop défavorable aux salariés et de détricoter tout ce qu'ils avaient acquis pendant le siècle, et c'est même pas juste ce qu'on a acquis après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait reconstruire le pays tous ensemble, c'est tout ce qu'on a acquis depuis le début du siècle, et je pense que les gens n'arrivent pas à imaginer ce que pourrait devenir à terme la société si cette loi passe, si le code du travail est jeté à la poubelle.
Et justement, du coup, ces gens, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'intérêt pour cette loi, qui ne sont pas forcément intéressés, et qui... pour qui ça leur passe bien au-dessus, ou je sais pas, ou peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir les informations. Comment est-ce qu'on peut éduquer les consciences comme ça?
Alors, je pense que là, pour le coup, la politique a fait beaucoup de travail pour devenir plus élitiste, pour essayer de faire en sorte que les citoyens ne s'intéressent pas ou se sentent en incapacité. Parce qu'ils ne sentent pas le niveau. Aujourd'hui, quand on entend les débats de point de vue très technique ou qu'on entend parler les experts sur les plateaux de télé, on se dit « Ah, mais ces gens-là, ils doivent savoir, ils ont des diplômes et tout. » Et ça participe à délégitimer le citoyen dans son action politique. Les gens maintenant se disent, ah ben ouais, mais ils doivent savoir mieux que nous et tout. Oui, mais sauf qu'ils doivent savoir mieux que nous, mais ils savent quels sont leurs intérêts à eux. Ils ne savent pas forcément quels sont les intérêts pour tout le monde. Et c'est aussi, voilà, il y a des gens qui ont des intérêts opposés. Il le disait tout à l'heure, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du salarié, c'est pas les mêmes. Hein. Il faut quand même préciser qu'une entreprise fait d'autant plus de bénéfices qu'elle paye d'autant moins ses salariés. Plus le salarié est payé, moins l'entreprise fait de bénéfices. Mais les gens aujourd'hui, ils ont été, je pense qu'ils ont été saoulés de la politique. Ils ont été saoulés parce qu'ils entendent beaucoup les débats d'experts, donc ils se sentent pas le niveau, et ils ont été saoulés des petits jeux politiciens. Je pense que là, par exemple, sur la déchéance de nationalité, ce côté la droite, la gauche, machin, on se répond. Ça écœure, ça écœure les gens des petits jeux politiciens. Et le fait d'avoir, pendant très longtemps, on a fonctionné sur un modèle du bipartisme, et là, d'avoir deux partis politiques qui font les mêmes politiques libérales, ça contribue à dégoûter les citoyens. Et le fait qu'on n'ait rien gagné depuis longtemps aussi, les gens, ils ont abandonné l'espoir et la lutte. Et autant, il y a eu des années où on gagnait. Moi, je fais partie de la génération CPE, j'avais 20 ans à l'époque, et je me suis battu, et c'est la dernière chose où on est. Même, on n'a pas conquis quelque chose, on a fait un petit recul à un gouvernement. Et ça date d'il y a 10 ans.
Et vous le sentez du coup, enfin tu le sens, je sais pas quoi. Le changement entre justement la mobilisation au moment du CPE et la mobilisation aujourd'hui. Parce que ça avait quand même été assez... On est tombé dans une période, moi ayant été étudiante du coup les 10 années qui ont passé entre les deux, où on n'avait aucune lutte, alors que bon, on a quand même la réforme des retraites, on a eu pas mal de réformes pour lesquelles on aurait pu bouger, même si on était encore une fois considérés comme pas concernés, alors qu'un jour on y arrivera bien à cette retraite. Et les étudiants étaient pas forcément, sont pas forcément bougés. Est-ce que justement aujourd'hui on n'a pas un peu perdu toutes cette lutte, quoi? Faut ramener les gens à s'y intéresser.
On a 10 ans de défaite dans les dents, en fait. Et moi, alors j'ai pas fait le CPE, je suis un peu trop jeune pour ça. Par contre, j'étais lycéen au moment de la bataille des retraites en 2010. On a perdu les retraites alors que beaucoup de gens s'étaient mobilisés, qu'il y avait un vrai ras-le-bol, quoi. Et ça, pour moi, clairement, c'était un coup qui était donné au truc, parce que depuis les retraites en 2010, on est le premier mouvement social. Alors que pourtant, on a eu des réformes sous Hollande, ça nous est tombé sur la gueule, quoi. On a eu l'ANI, encore une fois, la loi Macron. Au niveau universitaire, on a la loi Fioraso où personne n'a parlé. Enfin, il y a des gens qui ont essayé, mais on n'a pas été audible. Enfin, voilà. Et là, effectivement, on essaie de renouer avec toute une tradition de lutte, et voilà. Mais c'est pour ça qu'on peut pas se permettre de perdre cette bataille-là.
Ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je vois par exemple pour le CPE, il y avait beaucoup de gens qui avaient plus l'habitude. En tout cas, à Tours, je sais pas comment c'était passé au niveau national, mais à Tours, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient l'habitude, parce qu'à l'université, l'année précédente, ils avaient lutté pour les sans-papiers. L'année d'avant, ils avaient déjà lutté pour quelque chose.
Oui, il y avait pas mal d'associations, pas mal de mouvements ici.
De gens formés aux âgés, de gens formés qu'est-ce qu'était l'action politique. Aujourd'hui, effectivement, nous, on a des gens qui sont beaucoup moins formés, qui n'ont pas cette expérience. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de colère, de choses qui se sont passées depuis des années et sur lesquelles on n'est pas revenu. Et moi, pour mesurer un peu, je n'étais pas dans le mouvement de CPE dès le début. Mais je sais que ça avait pris de manière beaucoup plus restreinte au début, ça avait été beaucoup plus lent. Là, ça fait 3 semaines qu'on a eu la première manifestation, le mot d'ordre de la première manifestation. Ça fait 3 semaines que nous, à l'université, on a réussi à obtenir, que ce soit au début des blocages ponctuels, mais du coup à imposer un rapport de force pour obtenir la dépénalisation des absences, pour permettre aux gens de se mobiliser, qu'on a des amphis à TLM pour faire nos réunions, pour s'organiser, pour aller faire les tracts après, pour aller les differ, pour organiser des laboratoires d'idées. Là, on a des enseignants régulièrement qui viennent nous faire des conférences, nous présenter des choses, parce qu'on fait aussi des cours alternatifs, c'est aussi un moment de réflexion. On prépare des actions. On a quand même beaucoup de gens qui sont présents. Je trouve qu'il y a eu plus d'étudiants mobilisés qu'au début du CPE, alors qu'au début du CPE, le CPE, c'était une réforme qui ne touchait que les jeunes. Et on avait réussi à agréger les salariés qui, on avait marre qu'on ne nous entende pas, on avait marre des violences policières, on avait marre parce qu'ils n'avaient pas envie que ça touche leurs enfants. Mais on avait mis les salariés avec nous dans la rue pour quelque chose qui ne les concernait pas directement. Là, c'est quelque chose qui les concerne en premier lieu. Et pourtant, c'est les étudiants qui se sont mobilisés les premiers fortement. Et je pense qu'on va agréger, une dynamique qui va s'enclencher. Là, aujourd'hui, c'était voyant. On était quand même... c'était des conditions très défavorables à la manifestation. Il n'y a plus la verse et tout. Et pourtant, on était super nombreux. On était presque 2 fois plus nombreux, je pense, que la première manifestation.
On était au moins 10 000 aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est du jamais vu depuis...
Depuis le CPE. le CPE,
les retraites. Ouais, peut-être non, éventuellement
les retraites. Oui.
Les retraites en 2010, mais jure, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans.
C'était arrêté directement.
Ouais. Voilà, donc c'est.
La seule fois où on a eu autant de gens dans la rue, malheureusement, c'était plus pour des hommages que pour des.
Mais en oui, plus, le problème des retraites, c'est que c'était que des manifestations. Alors là, en fait, on n'a pas seulement des manifestations, on fait des actions. Nous, on est présents sur la fac toute la journée. Nous, tous les 200, 300, 500 étudiants qui sont mobilisés, tous ne sont pas là présents tout le temps. Il n'y a que quelques-uns qui ont dédié à vraiment qui ont tout lâché pour se mettre dans cette mobilisation. Mais ça tourne et on a 200 personnes qui sont là quasiment en permanence, quoi. Enfin, qui sont pas là physiquement, mais qui sont partis en train de diffuser des tracts, qui sont mobilisables pour une action. Je pense qu'avec ce cumul d'avoir les salariés ponctuellement pour des manifestations, d'avoir des grèves qui pèsent sur l'économie, et des brayages qui pèsent sur l'économie, et des étudiants qui ont des formes d'action politique qui sont moins formatées, qui prennent plus à défaut les forces de l'ordre et les gouvernements, qui sont plus craints du coup des gouvernements parce qu'ils ne savent jamais comment on va s'exprimer. De manière pacifique, de manière moins pacifique, est-ce qu'on va faire le prochain jour, est-ce que on va aller faire un sitting à Anatole France et que ça va bloquer le tramway, est-ce qu'on va aller au MEDEF, est-ce qu'on va aller à la préfecture, et tout ça ils savent pas et tout ça ils le craignent et ils craignent, je pense, le fait qu'on soit qu'on fonctionne moins sur la routine et qu'on soit moins préparé quelque part, c'est aussi comme ça qu'on fait des choses qui sont moins prévisibles pour le camp d'en face et qui les dérange. Et le fait d'agréger les deux, parce que s'il y avait seulement que les étudiants, ce serait probablement beaucoup plus difficile. Mais avec les salariés, je pense qu'on arrivera à peser suffisamment pour gagner. Il faut juste qu'on se mette dans l'esprit que maintenant, ça se joue sur du long terme. Les bras de fer avec les gouvernements se jouent sur du long terme. Ils jouent l'épuisement. Et que ce sera probablement comme pour le CPE. Ça va durer plusieurs mois. Il faudra qu'on attende le mois de mai, qu'on mette la pression sur les examens, des choses comme ça, pour arriver éventuellement à gagner. On va gagner de toute façon.
Il faut juste quand même dire que les salariés, il y a un vrai ras-le-bol chez eux, quoi. Ce que nous disent les syndicats, c'est que les salariés du privé ont massivement débrayé aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde effectivement à la manif, c'est même sous la pluie. Et ça, je veux dire, les salariés du privé qui se mobilisent massivement, c'est jamais vu depuis très longtemps. Et la mobilisation, ce que je trouve très intéressant, moi, c'est que dès les débuts, dès le lancement de la pétition, il y a plus d'un mois maintenant, par Caroline De Haas, les syndicats ont été largement débordés. Et ça, c'est super. Ça veut dire qu'il y a un vrai ras-le-bol, quoi. Et que du coup, le 9, on n'a pas attendu les organisations syndicales, le 17 et le 24 non plus. Aujourd'hui, ça a largement débordé. Moi, je suis coutumier à tour des manifs à 300-400. Et 400 encore, c'est les beaux jours, quoi. Faut qu'il y ait du beau soleil, une cause vraiment fédératrice. Et là, aujourd'hui, on est 10 000, quoi. Donc, il y a un vrai ras-le-bol et faut pas lâcher. Maintenant, faut pas lâcher. Faut pas attendre que ça vienne d'en haut. C'est que dans la rue qu'on obtiendra satisfaction. C'est un vieux slogan qui dit ça. Et voilà, il faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement par tous les moyens possibles. Et voilà.
Et il me semble quand même intéressant de rappeler aux auditeurs aussi qu'aujourd'hui, qu'on soit... Enfin, vous, le mouvement ici se passe à Haute-Hanneur, mais ce n'est pas seulement les étudiants qui sont là. Voilà, vous l'avez dit, il y a aussi les salariés. Les syndicats sont venus aujourd'hui aux AG et c'est tous ensemble, finalement. On a tous le même but, la même volonté, qu'on soit de... ici, enfin voilà, qu'on ait n'importe quelle conviction ou quoi, ou qu'on croit pas aux mêmes choses, peu importe, on veut tous la même chose, donc c'est important de rassembler aussi les mouvements.
Il faut noter que
sous une étiquette, pas sous quoi que ce soit, on est ensemble et la rue appartient à tout.
C'est un mouvement impartisan, sans étiquette, sans voilà. Il y a des syndicalistes qui sont dedans, il y a des militants politiques, mais chacun s'efface. Voilà. Parce que le plus important, là, c'est le retrait de la loi travail et que ça n'a pas l'intérêt d'afficher son étiquette.
Et puis chez les étudiants, c'est clairement. On s'appuie sur la logistique que ces personnes elles ont, mais que ça représente une toute petite part des assemblées générales. On est 300 étudiants mobilisés, on va dire.
En AG, il y a 90% d'étudiants minimum qui n'ont jamais eu de carte ou quoi que ce soit. C'est ça qui est vraiment beau dans ce mouvement.
Et par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on disait que les bureaux nationaux, enfin que les syndicats, mais surtout leurs bureaux nationaux, sont débordés, c'est qu'aujourd'hui, on avait quand même un peu partout en France des dissidents. Des syndicats réformistes qui sont venus manifester, parce que même si certains syndicats comme la CFDT nous disent mais non, mais aujourd'hui cette loi qui a été un peu remodifiée, elle est très bien, elle va permettre la modernisation des entreprises, leurs adhérents ne sont pas d'accord et leurs adhérents viennent manifester avec nous pour le retrait total de cette loi. Et donc voilà, c'est pas quelques personnes qui vont récupérer un peu la mobilisation et qui vont essayer de jouer contre nous. Aujourd'hui, ce mouvement, il est beaucoup plus ample que ça et ces personnes-là finiront par se mordre les doigts d'avoir cette position.
De toute façon, faut pas les écouter. Je veux dire, ces gens-là ne représentent rien, quoi. La semaine du 9, où nous, on a fait une manifestation, il y avait 8000 personnes à Tours, ce qui était déjà historique en soi pour une première manifestation. La CFDT, il me semble que l'UNSA aussi, appelait à un rassemblement le samedi. Ce rassemblement, ils étaient 50. On voit quand les gens se mobilisent. Voilà, donc faut pas donner à ces pseudo syndicats plus d'importance qu'ils n'en ont, quoi. C'est les tigres de papier, enfin vraiment, quoi.
Très bien. Qu'est-ce que vous avez, un dernier message peut-être pour les gens qui seraient pas encore convaincus, je ne sais pas.
Venez aux AG, venez parler. Il y a des points info Tanner, il y en a aussi, il me semble, parfois sur les autres sites. On est présent un peu partout, on tracte. Venez parler, on mord pas. Et je pense que c'est réellement important que tout le monde se mobilise contre ça, parce que quelles que soient les opinions personnelles des gens, on va tous arriver sur le marché du travail. La case du CDI, la case des 35 heures, ça nous concerne tous. Et globalement, on a quasiment tous intérêt à ce que cette loi ne passe pas, quoi. Donc renseignez-vous, il y a des sites qui sont très bien faits, il y a le site loitravail.lol qui reprend toutes les propositions de la loi, donc qui les met à jour en temps réel lorsqu'il y a des changements, et qui explique en détail pourquoi c'est nocif, qu'est-ce qu'il y a exactement dans la loi, etc. Donc informez-vous sur cette loi. Et n'oubliez pas que vous êtes concerné, quoi, parce que vous travaillez peut-être déjà, et que c'est vraiment important de se mobiliser aujourd'hui.
Moi, si j'avais un message, ça va peut-être un peu déstructurer là, parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir, mais je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui fonctionnent, notamment à l'université, sur le principe on est un troupeau et si je cours plus vite que les autres, c'est pas moi qui me ferai manger, quoi. En se disant, voilà, par exemple, la scolarité, c'est une compétition, et si j'arrive à me montrer meilleur que les autres, ok, mes conditions salariales sont peut-être pas top, mais moi je serai pas au chômage, ou moi je serai moins touché, et de se dire, voilà, en fait, il faut éviter de se mobiliser, parce que je me crée les conditions d'un bon dossier scolaire, et que comme ça je vais échapper au pire. Alors déjà, c'est faux. Moi, j'ai travaillé notamment l'année dernière sur les logiques de recrutement, et c'est clairement pas ce que les recruteurs cherchent, le dossier scolaire, et ils en ont pas grand chose à faire. Mais surtout, c'est quand on est ensemble, unis, qu'on impose le rapport de force, et il faut fonctionner en troupeau, mais pas sur le mode de si je suis pas le dernier, c'est pas moi qui me ferai attraper, mais sur le fait de quand on est nombreux, on impose le rapport de force. Aujourd'hui, on n'a plus été capable de gagner quelque chose contre un gouvernement depuis 10 ans, parce qu'on n'a pas été capable de se réunir, parce que la pression que le système nous met nous individualise. Et fait qu'on n'arrive pas à fonctionner ensemble, sauf que c'est en fonctionnant en équipe qu'on gagne. Je suis aussi joueur de rugby, et voilà, je suis bien placé pour savoir que quand on est tout seul, enfin, même un très bon joueur tout seul ne fait pas le match à lui tout seul. Par contre, 15 mecs qui sont prêts à fonctionner tous ensemble et à se battre les uns pour les autres arrivent à gagner. Et aujourd'hui, il faut que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'université qui nous regardent un peu de loin en se disant ouais, on aimerait bien qu'ils gagnent, mais on aimerait éviter d'avoir à se mobiliser avec eux. Aujourd'hui, il faut leur dire venez, parce que non, on gagnera peut-être pas sans vous, parce que nous, on est prêts à faire énormément de choses, mais on a besoin d'être nombreux, on a besoin, il y a des gens qui s'épuisent à force d'être là tous les jours et tout. Et plus on sera nombreux, plus on sera fort, plus on sera disponible souvent, plus ça pourra tourner, donc moins ce sera fatigant pour chacun. Et en plus, que ce soit pour les actions, que ce soit pour les manifestations, on a besoin d'être nombreux, et c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens, je pense, dans l'université qui croient que c'est suffisant de venir tous les jeudis avec nous manifester, mais qui le reste de la semaine sont en cours, voilà, et il faut qu'ils comprennent que ça fait des décennies que les gouvernements n'écoutent plus juste les manifestations. La réforme des retraites en est un magnifique exemple. On était très nombreux, on était plus de 3 millions dans la rue contre la réforme des retraites. Ça n'a pas suffi à se faire entendre, et pour se faire entendre, il faut que ça touche les activités économiques. C'est les seules choses que les gouvernements comprennent aujourd'hui, c'est les chiffres. Et le jour où Gattaz appellera Manuel Valls pour lui dire non, mais en fait, ce projet, il est en train de nous coûter plus cher qu'il peut nous rapporter, il vaut mieux peut-être reculer pour le reprendre plus tard. Et ben là, on aura gagné quelque chose. Voilà. Et c'est les gens, il faut qu'ils nous rejoignent pour que ça arrive à marcher et voilà, pas avoir de logique individualiste et savoir que c'est collectivement qu'on impose le rapport de force.
Oui, parce qu'en 2010, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quand les salariés ont bloqué les raffineries de pétrole que le gouvernement a commencé à s'inquiéter. Voilà, c'est pas quand il y avait des millions de personnes dans les rues. Ça, bon, une journée, ça fout le bordel, puis voilà, puis tout le monde rentre bien sagement au travail ou dans les cours, et puis bah la vie reprend. En plus, voilà, c'est tellement consensuel, enfin Bastille Nation ou à Tours, Liberté, Anatole, enfin on connaît le truc par cœur, on sait qui sera où, quand, comment. Voilà, et puis juste dire aux gens, il y en a beaucoup qui pensent, encore une fois, je vais me répéter, mais que jouer la carte du je vais avoir un bon diplôme, je vais être surdiplômé, du coup je vais m'en sortir, et c'est pas moi qui vais me faire bouffer, comme le disait Kevin, bah non, ça marche pas ça. Parce que la précarité, c'est pas que les gens qui ont fait un bac pro, quoi. C'est aussi les bac plus 8, c'est aussi les doctorants, c'est les chargés de TD, même à l'université, qui sont souvent précaires, c'est les contractuels, etc. Donc il faut pas essayer de jouer à ça, quoi.
Pour le résumer en une phrase, il faut arrêter de lutter les uns contre les autres pour choper les miettes. Il faut venir tous ensemble pour avoir une part du gâteau.
J'aurais pas dit mieux.
C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir.
C'est une belle conclusion.
Il y a vraiment moyen de faire d'y aller. Il faut juste venir et si tout le monde est là, on gagnera plus même que ce contre quoi on lutte.
Il y a un slogan de mai 68 qui disait « on veut pas le gâteau, on veut toute la boulangerie ». C'est un peu ça.
C'est ça.
Très bien. En tout cas, merci Kevin, merci Alex d'avoir exposé tout ça. Et puis, j'espère que le message sera passé, que les gens se viendront.
On espère aussi.
Et puis, on reviendra certainement, pour la suite, en espérant que ça fonctionne.
Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Bon.
Et donc, c'était l'entretien avec Kevin et Alex, deux étudiants des tanneurs.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.